Vous écoutez RTL.
Thomas Sidonie, on peut le coincer comment, Quentin, pour reprendre notre tradition
Ah, mais attendez, moi j'ai quelque chose, j'ai le nouvel ami de Quentin en studio. Ça s'appelle le blob. Vous savez ce que c'est? C'est un organisme unicellulaire. C'est pas une plante, c'est pas un animal, c'est pas un champignon. Ça a la texture d'une éponge, c'est jaune, parfois d'autres couleurs. Mmh. Ça mange, ça grossit, ça se reproduit et ça a 720 identités sexuelles. Ah. Possible.
Ouais, ça nous intéresse.
Pourquoi c'est l'ami de Quentin? Parce qu'il y a 700 identités sexuelles possibles. Hein.
Mais non, parce que c'est une nouveauté, une nouveauté talentueuse.
Et on ne peut pas le savoir, Thomas, en plus.
Non, hein. Non, non.
Mais alors, si vous voulez savoir à quoi ça sert, ce que c'est, eh bien, il faut rester à l'écoute de la curiosité. Et Quentin, si vous voulez venir saluer votre nouvel ami, vous êtes le bienvenu.
Je vais passer.
Je vous retrouve lundi. Bonne soirée. Ça va, lundi.
RTL. Jusqu'à 22h, la curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous les curieux, bonsoir Thomas. Merci
ça
d'être avec nous, ça va très bien. On est parti pour 2 heures d'aventure, d'histoire et de découverte folle, vous l'avez compris.
Oui, et si vous voulez réagir dans cette émission, si vous avez des questions sur le blob par exemple, ou alors les cannibales dont on parlera tout à l'heure, vous pouvez appeler au 3210 ou alors réagir sur RTL.fr ou sur les réseaux sociaux avec le mot dièse, le hashtag La Curiosité RTL.
Tous les soirs dans cette émission, on tombe de la chaise ou on tombe des nus, comme hier, avec notre naturaliste.
De la chaise, ça devient douloureux. Je commence
ouais,
à avoir
ça,
des
c'est
bleus.
Votre expression préférée, voilà. Thomas. Oui, avec notre naturaliste préféré, Marc Giraud, qui nous présentait ce crustacé qui se nomme cirripède, un animal bien équipé.
Ça existe, un pénis détachable.
Ah bon ?
Chez un mollusque, oui, chez l'argonaute. Et il envoie carrément son pénis et vraiment ça pousse.
Il y avait aussi un cirripède.
Oui, alors lui, par contre, c'est pas un pénis détachable pour le cirripède.
Non, mais il fait 8 fois sa taille.
Exactement.
Voilà, c'était bien,
mais c'est très utile.
Aussi.
D'autres pépites ce soir, Thomas ?
On espère, avec des histoires de cannibales, donc. Qu'est-ce qui pousse un homme à en dévorer un autre ? Cette question dérange et fascine. Depuis des siècles, vous verrez que les humains se sont inventés, mais alors plein de bonnes raisons pour faire rôtir leurs voisins.
Et puis tout à l'heure, vous pourrez monter le son pour savourer la musique de cette nouvelle génération de virtuoses. Ils sont jeunes, passionnés de musique classique et vendent des dizaines de milliers d'albums. Qui sont-ils et qu'apportent-ils à ce milieu assez fermé? Rencontre avec ces artistes, ce sera vers 20h40 dans La Curiosité.
Allez, tout de suite, comme promis, on découvre le blob sur RTL. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Alors le blob, voici ce que c'est. Vous en avez sûrement déjà vu, vous ne le saviez pas que ça s'appelait un blob, dans la nature et ça vit souvent dans les sous-bois.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Un blob, ça peut prendre toutes les couleurs. Ça peut être rose, ça peut être rouge, ça peut être bleu, ça peut être souvent très jaune et aussi blanc.
Si votre défaut, c'est la curiosité...
Et surtout, ce qui caractérise le blob, c'est que c'est immense. C'est grand, ça fait 10 mètres carrés au maximum.
Alors vous êtes bien sur RTL.
On dirait une onomatopée de bande dessinée. Et pourtant, le blob est une révolution scientifique que l'on découvre avec notre invitée Audrey Dussutour. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, vous êtes chercheuse au CNRS et vous étudiez ce fameux blob. C'est quoi, blob ?
Alors, blob, il a un petit nom un peu plus barbare, c'est Physarum polycéphalum, c'est un amébozoaire. C'est un organisme ultra primitif qui a plus de 1 milliard d'années.
Oh là là, donc c'est... Un organisme ultra primitif, ça veut dire qu'il est simple ou ça veut dire qu'il est très ancien ?
Il n'est pas simple, il n'est pas si simple. Il est très ancien, c'est vraiment au début, avant qu'il y ait les animaux, les plantes et les végétaux.
C'est-à-dire que ce n'est pas une plante, ce n'est pas un animal, c'est...
Non, c'était bien avant tout ça. Et en fait, il était sur Terre bien avant les animaux. Et il a des caractéristiques, en fait, des champignons, des animaux et des végétaux, mais il n'est ni l'un ni l'autre.
Est-ce qu'il est unique dans son genre, le blob ?
Non, il a plein de cousins. Et c'est une grande famille, il y a beaucoup de blobs, il y en a de toutes les couleurs. Il a des cousins petits, des cousins grands. C'est vraiment une famille qui va regrouper des milliers d'espèces.
Alors, vous nous avez...
Ouais, si vous nous regardez sur RTL.fr, on a eu la même vidéo au même moment. Denis, vous nous avez apporté des blobs. Alors, on peut aller regarder Sébastien Duduy, notre réalisateur va peut-être faire un gros plan sur mon blob à moi. Donc effectivement, il est un peu jaune. C'est assez joli d'ailleurs. C'est un petit, hein. Vous avez apporté les petits de la famille.
Voilà,
c'est ça ?
C'est une petite cellule de 3 cm carrés tout de même.
Ouais.
En fait, le blob, il peut faire jusqu'à 10 mètres carrés. Et c'est une cellule. Il faut bien comprendre que c'est une seule cellule.
Unicellulaire, hein, c'est
voilà.
Ça.
Voilà.
Pourquoi,
si
vous insistez
dessus, ouais. Nous, on en a combien ?
Des milliards.
Oui, voilà, c'est ça. D'accord.
Et donc, ça implique quoi d'être une seule cellule ?
Eh bien, ça veut dire qu'on est à la fois estomac, cerveau, nez, yeux, tout à la fois. Il doit tout faire.
Où est-ce qu'on les trouve?
Alors, on les trouve surtout dans les sous-bois, sous les écorces, les troncs d'arbres. Il faut chercher des endroits humides, extrêmement sombres, parce que la kryptonite du blob, c'est la lumière. Et donc, vous ne le verrez pas, la lumière. Il faut le chercher. Il est timide.
Mais toujours en forêt?
On peut le trouver, par exemple, dans la neige ou des choses comme ça, dans le désert, mais c'est d'autres espèces. Celui que je vous ai amené, vous le trouverez qu'en forêt, très tempéré, 20 degrés. Et beaucoup d'humidité.
Et alors vous, quand vous partez à la chasse au blob, vous êtes équipé comment? Vous avez des grandes bottes? Vous avez
une cuillère? Alors moi, je ne chasse pas les blobs. Je les achète sur Internet.
C'est vrai, ça s'achète sur Internet?
Il y a un commerce de blobs
que j'ai amené, c'est le blob américain, et ça achète sur un site Internet américain, parce que c'est utilisé dans les écoles pour l'éducation.
Mais ça veut dire que ce n'est pas si facile à trouver, alors?
Alors le problème, c'est pas que c'est pas facile à trouver, c'est qu'il faut savoir quelle espèce on a trouvé. Et ça, c'est extrêmement compliqué.
Parce qu'il y a plein d'espèces. Alors on va raconter tout ça. On a du temps devant nous. C'est le luxe de cette émission sur RTL. Vous êtes scientifique. On imagine que vous êtes dans votre labo et que avec un microscope, vous regardez un blob de près. Qu'est-ce qu'on voit?
Alors on n'a même pas besoin d'un microscope en fait pour regarder le blob, vu qu'il est énorme. Et donc si on regarde un blob, ce qui va frapper d'abord, c'est qu'il n'a pas vraiment de forme définie. Ça part un peu dans tous les sens. Et si on regarde un peu de près, il y a un réseau veineux à l'intérieur. Donc c'est un petit peu spécial parce que nous, notre réseau veineux, il est fait de plein de cellules et lui, il arrive à en faire 100 cellules. Et donc ce réseau veineux, on peut voir qu'il pulse à l'intérieur de la cellule.
Mais donc ça vit? Enfin, c'est du sang. Il y a du sang dedans, dans un réseau veineux? Il y a du sang normalement?
Alors voilà, c'est un petit peu comme le sang du blob, sauf qu'il est jaune. Hein. Mais c'est en fait, c'est le liquide qui est à l'intérieur de la cellule qui s'appelle le cytoplasme. Et à l'intérieur, en fait, il y a des nutriments, des vitamines, des choses comme ça. En fait, il faut imaginer qu'une cellule, en règle générale, il n'y a rien qui bouge dedans. Mais imaginez, vous êtes une cellule de 10 mètres carrés et vous devez amener le nutriment d'un point A à un point B. Bah, si vous n'avez pas de réseau veineux pour le faire, ça prend des plombes.
Ah oui, c'est comme un tunnel, une route.
Exactement.
En fait.
C'est vraiment juste pour distribuer les nutriments, les vitamines.
Donc le sang du blob est jaune. Et s'il perd ce sang, on peut le toucher, le regarder?
Oui, tout à fait. Alors si vous coupez une veine du blob, il y a quand même une certaine pression parce que ça va à 2 mm seconde à l'intérieur. Donc vous allez avoir une bulle qui va se former, mais elle va se cicatriser tout de suite. C'est une cicatrisation qui est vraiment un temps record. En 2 minutes, il cicatrise tout ça, il referme tout. Donc ce qui fait que le blob, vous pouvez le couper en plein de petits morceaux et vous aurez plein de petits blobs.
Mais il a peut-être mal quand on le coupe?
Il n'a pas de système nerveux.
On est rassuré.
Voilà. Est-ce qu'il se plaint, le blob? En tout cas, vous racontez son histoire dans ce livre. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob, sans jamais oser le demander, c'est aux éditions Équateur Science. Audrey Dussutour, est-ce qu'il peut se déplacer, ce blob?
Oui, alors il ne se déplace pas très vite, je vous rassure tous. Il fait du 1 cm à l'heure, donc c'est quand même très très lent. Et il se déplace avec son réseau veineux, en fait. Donc il fait un peu une technique qui est j'avance de deux pas, je recule d'un pas. Donc en fait, il envoie du liquide dans une direction, puis il en reprend un petit peu dans l'autre direction, mais il en envoie toujours un petit peu plus dans la direction où il veut aller.
Mais
il ne peut pas avancer.
Vous dites la direction où il veut aller, ça veut dire que cette chose jaune que j'ai à côté de moi, dans sa petite boîte là, elle veut peut-être aller vers vous, parce qu'elle vous connaît mieux et que moi j'ai l'air un peu hostile.
Non, elle cherche à manger là, c'est des affamés que j'ai amenés. Donc en fait, là, ils cherchent désespérément à manger, donc ils vont partir dans une direction au hasard, hein, au départ. Et s'ils trouvent rien, ben ils vont se rétracter et puis ils vont partir dans une autre direction.
Qu'est-ce que je peux leur donner pour leur faire plaisir?
Non, moi j'ai rien, me regardez pas.
Ah non, pas
j'ai
vous.
Rien à donner au blob. Mais comment ils se repèrent dans l'espace?
Alors, il a une technique absolument géniale, c'est la technique de l'escargot, moi j'appelle ça. En fait, quand il se déplace, il a ce mucus derrière lui et du coup, ce mucus, il est répulsif. Du coup, quand il recroise, il monte pas dessus. Ça fait qu'il explore jamais deux fois le même endroit. Donc en fait, il a une peu mémoire spatiale externalisée.
Savez-vous qu'il est impossible de tuer le blob? Le blob, pardon, ben oui, le blob, il est éternel. On poursuit notre découverte de cet organisme assez surnaturel et pourtant bien réel dans un instant sur RTL.
Ni animal, ni végétal, ni champignon. Ce n'est pas Sébastien Dudouis, notre réalisateur. C'est le blob. On le trouve partout dans le monde. Il ressemble à une éponge. Pardon Sébastien, c'est une très mauvaise blague, mais je n'ai pas pu m'en empêcher.
Et
ce blob, il se déplace sans avoir de membres en plus. C'est quand même impressionnant. On découvre cette drôle de bestiole, qui n'est pas une bestiole, avec Audrey Dussutour, qui est chercheuse au CNRS. Vous nous disiez, il était là bien avant nous. Il est apparu quand sur Terre? Est-ce qu'on peut le dater, ça?
Alors, c'est hyper précis, c'est entre 500 millions et 1 milliard d'années.
Oui, d'accord. C'est très scientifique,
sympa,
ça, comme
d'erreur.
Réponse, franchement.
Donc, en fait, plus c'est vieux, plus c'est difficile à dater, tout simplement. Donc, on sait qu'il était là il y a 500 millions d'années, voire 1 milliard d'années. Donc, On n'est pas plus précis que
d'accord.
Ça.
D'accord. Et vous nous disiez qu'il y avait des tailles différentes, des espèces différentes, des couleurs différentes. Donc, est-ce qu'on a pu répertorier toutes les espèces de ces blobs qui vivent soit dans l'ombre, cachés dans la forêt, ou alors sous la neige, comme vous le disiez?
On estime à peu près à 10% les espèces connues, donc il nous en reste 90% à découvrir. Il faut savoir que les insectes, on ne connaît qu'un tiers des espèces. Ouais. On découvre des mammifères encore, donc imaginez les blobs, les gens ne les voient pas, donc clairement, on est passé à côté de beaucoup de choses.
Ils sont très très anciens, ces blobs, et pourtant, on les a découverts ou redécouverts pour la première fois en 1973. C'était où et quand?
Où et comment, quoi?
Et comment, pardon.
Donc, c'est la première fois qu'il a été médiatisé. Les gens le connaissaient, mais c'est la première fois qu'il a été médiatisé à Dallas. Alors ça, c'est une histoire extraordinaire. C'est une dame qui s'appelle Marie qui, dans son jardin, trouve un petit blob appelé Fuligoseptica, ou vomitien en anglais. Et parce que ça ressemble
tout un programme,
à ça, hein, faut être honnête.
Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé tout de suite, mais il y a un petit peu de ça.
Il y a un petit peu de ça. Et du coup, elle voit ça, elle dit qu'est-ce que c'est, et elle prend son râteau, elle le fracasse. Le lendemain, elle revient et la chose est toujours là, intacte et à doubler de taille. Donc là, elle commence à dire, mais du coup, et du coup, elle prend des pesticides qu'elle utilisait comme du Roundup un peu.
Oui.
Et là, le lendemain, non seulement il a doublé de taille, il a un petit peu changé de couleur quand même, tout de même, mais il a doublé de taille. Et là, du coup, elle se dit quand même, ça commence à devenir flippant.
Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la police, les pompiers?
Elle appelle les pompiers qui essayent de le brûler. Et ça ne marche pas parce qu'on ne brûle pas quelque chose qui est mouillé. Et ensuite, on est au Texas, hein, donc ils essayent de tirer dessus. Et on peut faire des trous dans
le blob.
Voilà,
c'est ça,
on peut faire des trous dans le blob, ça lui fait rien du tout. Et du jour au lendemain,
indestructible.
Ben, le feu, clairement, ça va pas le brûler. Mmh. On peut lui faire des trous, ça va pas poser de problème. Il peut passer au-delà de certains poisons, donc. Il n'est pas indestructible, mais en tout cas, les moyens qui avaient été utilisés par Marie n'étaient pas les bons.
Mais donc là, vous nous dites que cette histoire-là a provoqué une médiatisation, c'est ça, au début des années 70, 73, mais aucun scientifique ne l'avait étudié, ce blob, auparavant, si.
Si, mais c'est juste que cette personne-là ne savait pas ce que c'était, les médias ne savaient pas ce que c'était, mm-hmm. Et surtout, vu que le blob, juste après, a disparu, comme ça.
Attendez, le blob qu'il n'arrivait pas à détruire...
A disparu du jour au lendemain. En fait, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il s'est mis en sporulation, c'est-à-dire en reproduction. Il est devenu tout noir, il a fait des petites spores et il s'est envolé avec le vent. Du coup, pour eux, ils ont dit qu'il a disparu, c'était un alien, parce qu'à l'époque, il y avait une rumeur comme quoi il y avait un vaisseau qui aurait atterri pas loin. Ils étaient sûrs qu'ils avaient trouvé un alien.
Mais comment ils sont envolés, ce blob? C'est-à-dire par petits morceaux comme ça, par desquamation dans l'air?
Non, en fait, le blob, ce qu'il veut dans sa vie, c'est devenir le plus gros possible pour se reproduire. Et donc, en fait, une fois qu'il atteint une certaine taille, c'est la seule fois où il aime la lumière. D'un coup, il se met à la lumière et là, il se transforme. Il fait des petits pieds comme ça, avec des petites boules noires. Et ces petites boules noires, elles vont être envolées dans le vent et c'est à l'intérieur qu'il y a les cellules germinales.
Et il va se reproduire ailleurs. Est-ce que le blob a une espérance de vie? Est-ce qu'il vieillit?
Alors, ça, c'est une question absolument fascinante. On ne sait pas. Donc, moi, le blob que je vous ai amené aujourd'hui, il a plus de 60 ans. En fait, il faut savoir que le blob, on peut le sécher. Donc, en fait, là, il est en version vivante, mais demain, je peux le sécher et le garder comme ça 2 ans et le raviver.
Ah, donc, vous pouvez le ressusciter, en fait.
Exactement.
Il peut...
C'est l'hibernatus, en fait.
Exactement. Et ce qui est
génial...
Il n'est
pas trop ridé pour un blob de 60 ans.
Non, lui, il est tout neuf parce qu'il a 2 jours. Je l'ai réveillé il y a 2 jours, donc il est tout neuf. Mais dans 2 mois, il aura une sale tête parce qu'il deviendra un petit peu vieux.
Il est au courant pour Macron et Le Pen au deuxième tour ou pas?
Non, je ne lui ai pas dit, je ne veux pas le déprimer.
D'accord. Est-ce qu'il peut tomber malade, le blob?
Oui, il peut attraper des champignons. C'est le comble vu qu'il les mange. Donc, en fait, il peut attraper des petits champignons parasites qui lui poussent dessus.
Vous racontez tout ça dans ce livre, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander, évidemment en référence à un film de Woody Allen, c'est chez Équateur Science. Moi, je vous entends, je trouve ça fascinant parce que je n'avais jamais entendu parler du blob, donc je découvre ça, mais je me dis quand même à quoi ça sert. Est-ce que, par exemple, puisque vous nous dites, je peux l'endormir, le réveiller, etc., il est quasiment indestructible, à quoi ça peut nous servir, si tant est qu'on est forcément, qu'on soit obligé d'étudier des choses qui nous servent, mais à quoi ça peut nous servir?
Ça, c'est une bonne question. Donc, moi, je fais de la recherche fondamentale, donc clairement, mon but, c'est d'en apprendre le plus possible sur le blob, mais clairement, il faut... être conscient que la recherche fondamentale, elle a des applications à long terme.
Ouais.
Et donc, le blob a déjà inspiré pas mal. Par exemple, son réseau veineux, il est plus optimal que tous les réseaux ferroviaires qu'on peut construire. Donc clairement, par exemple, il y a déjà des gens qui ont essayé de comprendre comment il optimisait son réseau pour l'appliquer, par exemple, à des réseaux de télécommunications et des choses comme ça. Ensuite, son réseau veineux, toujours, il obéit aux mêmes lois que les réseaux veineux des tumeurs. Donc il faut savoir, quand on a une tumeur, la tumeur va prendre la circulation sanguine et la modifier pour alimenter en fait les cellules tumorales. Et en fait, quand on regarde la morphogénèse, donc la formation de ce réseau veineux, on voit qu'il obéit exactement aux mêmes lois que le réseau veineux du blob.
Bon, on reparlera de ces applications, c'est une piste.
C'est fascinant.
Mais blob.
Pourquoi s'appelle le blob?
Pourquoi?
C'est moi.
C'est vrai?
C'est vous qui avez décidé de l'appeler le blob.
Il n'y a pas un film de Steve McQueen?
Il n'y a pas de nom en français. Il a un nom qui s'appelle Myxomycète ou Physarum polycéphalum pour son nom vraiment d'espèce.
C'est trop long.
Quand on parle avec des gens du Myxomycète, ça ne parle pas du tout. Et comme il double de taille tous les jours, ce qui est assez fascinant, et en laboratoire, vous pouvez être envahi très très vite. Du coup, ça m'a fait penser à ce film des années 50 avec Steve McQueen qui s'appelait Le Blob, où c'était un alien qui mangeait des gens et qui grossissait comme ça.
Très drôle. Vous êtes drôle, hein, vous avez le sens de l'humour. J'aimerais bien être dans votre labo de temps en temps pour voir comment ça se passe. Surtout, écoutez bien que ce blob a quand même 720 identités sexuelles possibles. En tout cas, 720 genres, on va dire. Mais ça, ça nous
fascine. Mais est-ce qu'il peut choisir
aussi,
au moins?
Bah, je sais pas. En tout cas, vous aurez la réponse dans un instant sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Le blob n'est pas une plante, le blob n'est pas un champignon, le blob n'est pas un animal.
Thomas Hugues.
En fait, il a les caractéristiques des trois à la fois. Il est un petit peu animal, un petit peu plante, un petit peu champignon. Donc on pouvait pas vraiment le classer.
Sidonie Bonnec.
Du coup, on l'a mis dans une famille, là où on met un peu le fourre-tout en biologie, quand on sait pas ce que c'est. On le met dans une famille qui s'appelle les protistes.
Curieuse, curieux.
Donc, vous allez me dire, mais est-ce qu'il va pas finir par envahir le monde, ce blob? Eh bien, je vous répondrai qu'il l'a déjà fait, et ceci depuis 500 millions d'années.
Vous êtes chez vous, sur RTL.
Ce blob peut être immortel, il ressemble à une éponge visqueuse, jaune ou d'une autre couleur. Il n'a qu'une obsession dans la vie, c'est grossir et se reproduire. Le blob est l'objet de notre curiosité avec la chercheuse au CNRS, Audrey Dussutour, qui lui a donné ce très joli nom en référence à ce film de science-fiction avec Steve McQueen des années 50. Comment le blob vient au monde, Audrey?
Est-ce que vous avez assisté à une naissance de blob?
En fait, c'est assez facile. En fait, on va être simple parce qu'il a plusieurs types de reproduction, mais on va parler. Il a une reproduction sexuée comme nous. Donc, il faut juste que deux cellules de sexe opposé se rencontrent.
Donc là, j'ai deux blobs dans les mains que vous avez apportés. Si je les rapproche, ils peuvent faire des bébés?
Eux, c'est des clones. Non, eux, ils peuvent pas faire de bébés parce qu'ils sont du même sexe.
C'est la deuxième manière de se reproduire, vous me direz après. D'accord.
Donc en fait, il a, on dit 720 sexes. En fait, c'est un raccourci pour dire 720 types sexuels. En fait, le sexe est déterminé par des gènes chez le blob et c'est une association de gènes. Il y a 720 possibilités. Et du coup,
c'est pas 720 organes sexuels.
Non, parce que c'est une cellule. Il n'y a pas d'organe sexuel.
Eh ben oui, bien sûr.
Donc en fait, il a un type sexuel. Et du coup, pour se reproduire, il faut qu'il trouve quelqu'un d'un autre type sexuel. Ce qui est assez facile quand il y en a 720 différents. On a quand même 719 chances.
Donc il faut qu'il soit complémentaire, c'est ça? Pour se reproduire.
Voilà, il faut qu'il trouve quelqu'un du sexe différent. Donc il a beaucoup de possibilités. Nous, on a une chance sur deux. Lui, il en a une.
Oui, mais attendez,
il a 719 chances sur
720. Ils avancent à 1 cm par heure.
Ah, mais parce que c'est pas lui qui se reproduit, c'est ses spores. En fait, quand il va se transformer en spore, ses spores vont être enlevées par le vent, les animaux, etc. vont se retrouver dans un milieu liquide. Et là, elles vont avoir une petite flagelle, une manière d'un petit spermatozoïde, hein, tout à fait. Ouais. Et donc, elles vont se balader dans l'eau et jusqu'à retrouver un autre petit spermatozoïde pour
Quelle
se reproduire.
Histoire.
C'est dingue. Alors vous nous avez dit que moi je vous des yeux, mais comme des soucoupes, hein, je peux vous dire. Si vous voulez nous voir sur RTL.fr, c'est le spectacle.
On dirait
du soir.
Deux blobs.
On dirait
yeux.
Deux blobs. C'est un truc de dingue. Ils sont un peu plus bleus que jaunes, mais on dirait des. Tiens, une question sur Twitter. Alex qui nous demande si on peut élever des blobs. Bah, c'est votre métier en fait. Vous êtes éleveuse de blobs.
C'est extrêmement facile à élever. Ça mange beaucoup de flocons d'avoine, donc et on est vite dépassé. Ça bouge pas beaucoup, moi je veux rassurer les auditeurs là-dessus. C'est que quand on le regarde comme ça, il a pas bougé depuis tout à l'heure.
Non, c'est
donc,
vrai.
Voilà.
Il a pas grossi dans son petit récipient.
Le blob se reproduit donc sexuellement, comme nous, comme vous l'avez dit, comme les humains, et puis ils peuvent aussi se cloner.
Oui, tout à fait.
De quelle manière?
Il existe en fait des blobs qui font des spores qui peuvent redonner un blob toute seule. Donc en fait, c'est comme si chez nous, une ovule pouvait redonner un enfant sans fécondation.
Et alors, vous nous avez dit au tout début de cette interview qu'il n'aimait pas la lumière. D'accord. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas, encore plus envahi la Terre, parce qu'il n'a que 12 heures pour progresser. Mais comment il réagit à la lumière là en ce moment? Il y a de la lumière quand même dans notre studio, donc je l'ai pas vu se ratatiner, se recroqueviller, etc.
C'est une réaction qui se produit 2-3 heures après là, et il devient tout blanc, il est pas tout pâle, et là on peut pas le raviver après. Donc si on le met...
Pardon, il meurt à la lumière alors?
Voilà, il meurt si on le laisse trop longtemps à la lumière, avec une lumière très forte. Si vous le mettez, si vous alternez obscurité et lumière, là il va se brûler. Parce que lui, la lumière est juste un signal pour se brûler et rentrer dans la phase de reproduction. Mais si on lui met une lumière violente sur lui, là il va pas
y aller. Est-ce qu'il y a des blobs dans le désert par exemple?
Alors...
Parce qu'il y a ombre et lumière, mais c'est violent la lumière dans
le
désert.
Mais on peut se cacher dans le désert, sous le sable, etc. Donc en fait, il trouvera toujours quelque part se cacher. Mais la plupart des... Pas tous, mais la plupart des blobs n'aiment pas la lumière, en effet.
Audrey Dussetour, grâce à vous, tout ce qu'on a toujours voulu savoir sur le blob, eh bien, on le sait, sans jamais oser le demander. Mais à vous, on le demande, c'est aux éditions Équateur Science, ce livre que vous publiez. Et une autre question, tiens, puisque un blob peut naître et venir au monde comme ça, est-ce qu'il y a des étapes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les bébés blobs? Est-ce qu'il y a les ados blobs qui traînent un peu la patte et qui avancent un peu moins vite qu'un centimètre par heure?
Ah, c'est plutôt l'inverse. Les ados, chez les blobs, ils sont plutôt énergiques, comme chez les nôtres. En fait, le blob, au départ, quand il y a reproduction sexuelle, donc classique, hein, fusion, etc., au début, il a un noyau, comme une cellule classique, et puis il va se diviser, le noyau. C'est la membrane qui va se diviser, c'est pour ça qu'il reste une cellule. Et puis les noyaux se diviser. Donc au début, il est tout petit, on ne peut pas le voir, hein, à l'œil nu. Et puis il devient très grand parce qu'il a des milliards de noyaux à l'intérieur. Et donc en fait, ce qu'on regarde là, c'est plus la phase ado, finalement, du blob.
Et le plus grand blob connu, c'est grand comment?
Alors le plus grand obtenu en laboratoire, c'était pour le départ à la retraite d'un chercheur. Ils ont créé un blob de 10 mètres carrés.
Ah oui?
C'est grand comme la pièce. Là.
Avec plein de flocons d'avoine, parce que c'est ça, ça adore manger.
Je ne sais pas comment ils ont fait, ne serait-ce que pour le garder.
Est-ce que ça peut nous envahir, les blobs, le blob? Parce que vous dites que ça grossit à une allure hallucinante, que ça peut atteindre jusqu'à 10 mètres carrés. C'est-à-dire que ça peut, puisqu'ils aiment grandir et se reproduire, ils peuvent décider de peupler et de recouvrir notre planète.
Bon, si un jour le soleil disparaît, oui.
Ouais. Non, mais dans la nature, dans une forêt, il y a des zones qui sont très ombragées, donc ça devrait, vous voyez ce que je veux dire, tout envahir, il y aurait, je sais pas, être à la place des champignons, à la place de tout ça, est-ce que ça arrive ça?
Lui, son but, c'est quand même pas de grandir éternellement, son but, c'est de se reproduire, de transmettre ses gènes. Donc ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va grossir jusqu'à une taille de 1 mètre carré, généralement, même peut-être un peu moins, et là, il va envoyer des spores. Parce que pour lui, il veut faire un brassage génétique, il va envoyer ses...
Donc il va profiter de quoi de je ne me souviens plus comment il fait ses sports. Faut m'aider Audrey.
Au soleil.
Il va profiter d'un coup de soleil pour se transformer.
C'est ça, quand il a atteint une taille
et se diffuser, d'accord.
Qui est assez grande.
Qu'est-ce qu'il mange, le blob? Qu'est-ce qu'on peut lui donner pour lui faire plaisir, faire grossir?
Il n'y a pas que les flocons d'avoine, quand même.
Non, c'est un peu triste.
Alors, dans la nature, c'est un terrible prédateur des bactéries et des champignons. Donc en fait, c'est classifié comme un prédateur, on dirait pas comme ça, mais il mange des bactéries et des champignons. Et en laboratoire, donc c'est vrai que cultiver des bactéries et des champignons, c'est pas très, très facile. Donc on a trouvé cette technique des flocons d'avoine, enfin c'est pas moi, c'était il y a longtemps. Et on a aussi découvert, nous, dans notre laboratoire, qu'il affectionnait particulièrement les jaunes d'œufs. Donc un peu comme on fait des flans type crème brûlée, il adore ça.
C'est vrai?
C'est pour ça qu'il est tout jaune.
Le blob n'a pas de cerveau, pas d'yeux, pas de bouche, pas d'oreilles, pas de membres. Bah non, c'est une cellule. Et pourtant,
bah alors, comment on
discute avec lui ? Il apprend et communique. Eh bien, il faut rester à l'écoute. L'RTL et de la curiosité, à tout de suite.
On découvre cet organisme incroyable qu'on appelle le blob. Il n'a pas de bouche, mais il se nourrit. Il n'a pas de membres, mais il se déplace. Et il possède plusieurs centaines d'identités sexuelles différentes. C'est Audrey Dussetour, chercheuse au CNRS, qui nous révèle ses étonnantes capacités. Mais comment vous avez découvert Qu'est-ce qui fait que vous êtes passionnée par le blob? C'est quand même la première question qu'on aurait pu vous poser.
Ça, c'est un concours de circonstances, parce que moi, je suis myrmécologue, donc spécialiste des fourmis à la base.
Oui.
Et c'est juste que quand j'étais que je travaillais en Australie, mon superviseur là-bas m'a dit: Audrey, j'écris un livre sur la nutrition et il me manque de la nutrition chez les unicellulaires, et à la machine à café, j'ai entendu parler d'un être absolument extraordinaire. Je compte sur toi pour me faire une expérience de nutrition sur cet organisme. Et donc le lendemain, il m'a amené cet organisme.
Votre premier blob.
Voilà, et après, j'ai de suite adoré.
En tout cas, ça fait réagir sur Internet, et il y a un auditeur qui nous écrit sur Twitter et qui nous dit: Alex demande si le blob
c'est
a des prédateurs. Bah oui. C'est peut-être un autre Alex.
Peut-être, on ne sait jamais. Mais je pense que c'est Alex qui est au taquet sur le blog et on le salue.
Merci Alex de nous poser ces bonnes questions.
Il a quelques prédateurs, mais pas de vrais. Il a certaines limaces, le mange. Il y a des petits scarabées qui peuvent un peu le manger. Mais il n'a pas vraiment un prédateur affilié. Il n'y a pas quelqu'un qui se nourrit que de blobs.
Et lui, comment il repère sa nourriture?
Alors, il a des récepteurs. Il a des récepteurs sur sa membrane et c'est plutôt chimique. Et c'est un petit peu comme le nez. Et donc, en fait, il arrive à la sentir à distance.
Et donc, il se rapproche. Vous nous avez expliqué comment il se déplaçait tout à l'heure. Il se rapproche. Et là, il la mange comment, puisqu'il n'a pas de bouche?
Alors, il mange plus comme... En fait, c'est pour ça qu'on l'a disqualifié pour être un champignon. C'est que les champignons, ils absorbent et lui, il phagocyte, c'est-à-dire qu'il englobe sa nourriture. Donc, en fait,
et se couche sur sa nourriture,
Il prend la nourriture dans sa membrane, il l'incorpore à l'intérieur de la cellule et là, elle est digérée.
Oh ouais. Alors dans votre livre, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander, publié aux éditions Équateur Science, vous expliquez que vous avez mené une expérience sur le comportement social du blob. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez expérimenté?
Alors, en fait, ce qui m'avait surpris, c'est que jusqu'à présent, les gens, ils mettaient les blobs toujours tout seuls. Moi, je travaille sur les fourmis, et fourmis, ça vit en groupe. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on les met ensemble? Des blobs différents. Donc là, j'ai eu plusieurs découvertes. Donc, j'avais des blobs australiens qui sont devenus des bisounours très sociaux. Ils se signalaient. Tiens, j'ai trouvé de la nourriture, viens, je vais t'aider à en trouver, etc.
Mais attendez.
Comment vous saviez tout ça?
Voilà, comment ils font?
Alors, en fait, quand ils mangent, les blobs, comme tout le monde, il digère, il laisse des trucs.
Ouais. Et c'est du calcium. Le blob fait caca.
Voilà, exactement. D'ailleurs, il y a un article magnifique qui s'appelle La défécation chez le blob. Et en fait, il laisse des petites bulles de calcium. Et ces petites bulles de calcium, elles sont extrêmement attractives pour les congénères. Et il s'avère que mon blob australien, il signale beaucoup et il sent très bien le calcium. Alors que mon blob américain, il signale rien du tout et il sent très mal. Et du coup, comme ça, quand on met des blobs américains ensemble, on a l'impression qu'ils sont complètement asociaux. Mais c'est parce qu'ils ne se perçoivent pas. Et on a donc, en faisant l'expérience, forcément, on a fait plein de combinaisons et on s'est aperçu qu'en mettant le blob japonais avec le blob américain, il se passait une chose étrange. C'est qu'au départ, ils se rapprochent et ils pensent qu'ils sont identiques. Et il y a une petite erreur de reconnaissance, c'est comme les problèmes de greffe des fois. Ils disent ah, on est pareil. Et ils ouvrent la membrane et là, ils disent ah non, on n'était pas pareil en fait. Et là, le blob américain, il ne peut plus faire marche arrière, la membrane est ouverte et les noyaux du blob américain attaquent les noyaux du blob japonais. Et c'est pour ça qu'on a dit ça, on a appelé ça Pearl Harbor.
À l'envers, c'est Pearl Harbor à l'envers.
Et donc, les blobs les plus cools, c'est les blobs australiens.
Ouais, c'est les bisounours.
Et nous, on n'a pas de blob en France.
Physarum polycéphalum, on n'a pas de souche française qui est étudiée dans les laboratoires, mais il ne manque plus qu'à aller la chercher, disons.
Ah oui, mais c'est quand même étonnant. Mais donc, est-ce que c'est une forme de communication? Est-ce qu'on peut dire ça?
Alors, c'est les prémices d'une communication, c'est-à-dire qu'ils vont laisser des indices qui vont être utilisés par d'autres blobs, et c'est le début de la communication.
Alors, le blob n'a pas de cerveau? Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il est malin, intelligent?
Alors ça va dépendre de la définition d'intelligence que l'on va prendre, parce qu'il y a des gens qui vont dire que c'est du tout intelligent. Moi, ma définition de l'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Et lui, il sait résoudre plein de choses. Il sait sortir d'un labyrinthe, il sait former des réseaux super efficaces.
Attends, il sait sortir d'un labyrinthe, là, ce blob jaune, là?
Il suit ses sécrétions, c'est
quoi? C'est une expérience qui est super chouette, qui a été faite par Toshiaki Nakagaki, mon collègue japonais. En fait, il a mis des blobs dans un labyrinthe et ils se sont tous un peu donné la main. Ils ont tous fusionné les uns avec les autres et ils ont trouvé la sortie comme ça parce qu'ils se sont étalés, ils ont coopéré finalement.
Incroyable.
Et voilà. Et du coup, nous, on voulait savoir s'ils pouvaient apprendre sans cerveau. Donc ça a été ça, le but de l'expérience. Ouais. Et donc, oui, le blob peut apprendre des choses.
Et donc il apprend, par exemple, à sortir d'un labyrinthe ou alors à d'autres choses?
Non, il apprend, parce que la sortie d'un labyrinthe, c'est pas un apprentissage.
Il y a l'idée de mémoire dans l'apprentissage.
Et donc nous, ce qu'on a fait, c'était assez compliqué. Il fallait penser comme un blob, c'est assez délicat.
Vous n'avez pas du tout une tête de blob.
Il fallait trouver les choses qui intéressent le blob pour le motiver à travailler. Et qu'est-ce qu'il aime le blob? C'est manger. Donc en fait, la manip qu'on a fait, c'est on a mis un blob et il devait traverser un pont pour trouver de la nourriture. Il n'avait pas le choix. Et sur ce pont, on mettait quelque chose qu'il aimait pas du tout, mais qui est inoffensif. Donc du sel ou des substances amères, type café ou des choses comme ça. Et donc le premier jour, forcément, il traverse le pont, il est là, j'aime pas ça, il fait un mini doigt, ça prend des heures pour traverser. Finalement, il trouve la nourriture, alors il s'en va. Et le lendemain, on lui dit, tu dois refaire ça. Tu dois retraverser le pont pour trouver ta nourriture. Et au fil des jours, on voit que finalement, il s'habitue complètement à la substance. Et qu'en fait, en plus, cette habituation à la substance, elle est spécifique. Et donc, une habituation, c'est comme quand vous rentrez dans un bar et ça sent la cigarette. Au bout de 2 heures, vous la sentez plus. Mais si vous sortez dehors et que vous revenez, vous ressentirez la cigarette. Et lui, c'est exactement ça. En fait, il s'est habitué à ce stimulus inoffensif, finalement, qu'il aimait pas. Mais bon, il s'est bien aperçu au bout d'un moment que...
Qu'il fallait en passer par là.
Exactement.
À quoi toutes ces recherches, ces observations autour du blob peuvent nous servir à nous, les humains? Et à vous, les scientifiques.
On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais...
Oui, en dehors de la lutte contre le cancer, qui est évidemment primordiale, est-ce qu'il y a d'autres...
Est-ce qu'on peut rêver d'immortalité grâce au blob?
Alors, clairement, moi, en tout cas, j'encourage les gens à travailler là-dessus, parce qu'il y a un phénomène assez fascinant chez le blob, c'est que donc, pendant 2 mois, vous pouvez l'élever, et puis vous allez voir, il montre un peu des signes de sénescence, il ne pousse pas bien, il n'apprend pas, il devient bizarre, la couleur, etc. Et là, on le sèche. Et c'est comme quand vous avez un PC et que vous travaillez beaucoup, vous accumulez des petits spyware, etc. Votre PC, il rame, vous le redémarrez, c'est nickel à nouveau. Et bien le blob, c'est pareil. On le sèche, on le garde comme ça pendant un an, on le réveille, là, il est neuf, comme neuf. Et donc, clairement, il y a quelque chose qui se passe dans la cellule, et c'est qu'une cellule, donc ça doit pas être compliqué, mais il y a quand même quelque chose qui se passe, une espèce de nettoyage à l'intérieur de la cellule. Et ce serait vrai que, clairement, si on arrive à savoir quel est le secret du blob, parce que, clairement, il arrive à revenir en arrière.
Est-ce que vous leur parlez à vos blobs, Audrey Dussuteau ?
Disons que ça
arrive
forcément. Forcément, ça arrive quand on travaille sur des organismes vivants, quand il est parasité par son champignon. Des fois, je dis « Ah, pauvre choupinou !»
Vous avez envie d'en mettre chez le pédiatre.
Et donc, vous avez un club de chercheurs de blobs, parce qu'il y a un Japonais, il y a des Australiens, j'imagine, etc.
En fait, on n'est pas si nombreux que ça, c'est assez rigolo parce que, par exemple, sur les fourmis, on est des milliers à travailler sur les fourmis et chez les blobs, on se compte sur le doigt de la main, quoi. Et donc, on a une grosse équipe au Japon, une grosse équipe en Australie, une équipe à New York, des équipes en Allemagne aussi, en Autriche, mais on se connaît tous. C'est une toute petite communauté et beaucoup de collaboration, c'est très agréable. Et
parfois, vous échangez des blobs ?
Ah oui, c'est comme ça que j'ai eu le blob japonais, en fait. J'ai été au Japon voir mon collègue, il me l'a donné.
Bon, ben, on va vous rendre vos blobs parce que là, ils ont pris beaucoup de lumière, il faut qu'ils aillent se reposer.
On leur fait la bise.
Les petits choupinets. Voilà. Ça sent l'iode un peu, je trouve.
Ouais. Vous avez déjà goûté un blob ?
Non, pas moi, mais j'ai un collègue qui l'a fait, oui.
Ça a goût de quoi ?
Ça a goût de champignon, il paraît.
Ouais. Mmh.
Petite omelette de blob.
Ouais, j'ai pas envie.
Salut les blobs !
Moi, j'ai bien dîné, ça va aller. Merci beaucoup.
Audrey Dussuteau, c'était passionnant et vous publiez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander. C'est aux éditions Équateur Science. Puis je suis sûre que vous allez revenir pour nous parler des fourmis, ça nous a donné envie.
Ah oui, ça c'est sûr, vous serez la bienvenue.
Vous écoutez RTL.